se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, c'est la dernière de la semaine et on va continuer à bien en profiter durant ces deux prochaines heures avec Martin Bourdin, avec Pierre-Édouard Magnon, avec Mathilde Dimmer et avec Thierry Moreau, avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir à la mise au point de Thierry Breton. C'est le commissaire européen. Pour lui, ce serait une erreur d'arrêter les ventes de véhicules thermiques en Europe en 2035. Est-ce qu'on a tout faux en voulant passer au tout électrique? On attend vos avis au 32-16 et sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, on parlera amour et argent. 3/4 des Français en couple possèdent un compte joint. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Là encore, on attend bien sûr vos témoignages. N'hésitez pas, écrivez-nous. Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous et Johanna Chabas qui reviendra sur le cas de Romain. Vous en souvenez peut-être, c'était cet auditeur bloqué en fauteuil roulant dans son appartement à cause d'un ascenseur en travaux. Il y a du nouveau dans ce dossier, on vous racontera tout ça.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va tout de suite passer à la mise au point du jour. C'est celle du commissaire européen Thierry Breton dans une interview aux Échos hier. Il revient sur l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe à partir de 2035 et pour lui c'est clairement une erreur.
Déjà parce que ça détruirait des emplois, 600 000 sur les 13 millions que compte l'industrie automobile en Europe d'après les estimations de Thierry Breton dans les Échos ce matin. Difficile d'anticiper le nombre de salariés qui pourront garder leur emploi si on passe au tout électrique, dit le commissaire européen. Autre défi et finalement c'est peut-être le principal problème qui nous concerne tous, c'est le prix des véhicules. À l'achat, une voiture électrique coûte 27% de plus qu'une voiture thermique, nous dit Thierry Breton. Ça coûte une voiture électrique 56 000 euros en moyenne. On n'est pas sur les modèles les plus accessibles, évidemment, pour le portefeuille des Français et des Européens en général. Même si en France, par exemple, on a vendu plus de voitures électriques neuves le mois dernier que de voitures diesel. C'est le deuxième mois de suite que ça arrive. Il y a un risque aussi de ne pas avoir suffisamment de matières premières pour produire toutes les voitures électriques nécessaires d'ici 2035. Il faudra 15 fois plus de lithium, 4 fois plus de cobalt, de graphite et 3 fois plus de nickel, explique Thierry Breton, qui craint que ça pose à l'Europe de nouvelles dépendances énergétiques. La clause de revoyure donc prévue en 2026 sur l'interdiction des moteurs thermiques en Europe à horizon 2035 est donc très importante. Nous devrons peut-être adapter les mesures, dit le commissaire européen, au marché intérieur. Réfléchir par exemple à l'électricité nécessaire pour alimenter tous ces véhicules électriques. En 2050, il estime qu'on aura besoin de 15% d'électricité en plus que nos capacités actuelles uniquement pour charger ces voitures électriques. Il faudra aussi installer plus de 6,5 millions de bornes d'ici 2030.
Oui, donc c'est pas gagné-gagné.
Ça va pas être simple.
Alors, vouloir passer au tout électrique en 2035, est-ce qu'on a tout faux? Je pose la question à Thierry Moreau qui vient de passer à l'électrique, justement.
Enfin, il y a en avril dernier, donc ça commence à faire un petit moment. Mais de toute façon, déjà, je pense qu'on se trompe. Le passage au transport individuel tout électrique, elle n'est pas la solution. On le sait. Tu as listé les problèmes, hein, la pollution, les métaux rares, les problématiques électriques, il faudra augmenter la production, les possibilités de recherche qui n'existent pas, les prix qui... ce sera pas avant 5 ou 6 ans que les prix seront à peu près au niveau du thermique. Et la transition industrielle avec la casse sociale. Donc de toute façon, on sait que c'est pas ça la solution. La solution, et on n'y est pas prêt, c'est le transport en commun. On n'y est pas prêt concrètement et on n'y est pas prêt psychologiquement. On n'y est pas prêt concrètement parce que le réseau, il n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, moi, j'habite dans un endroit où il y a 2 bus le matin, 2 bus le soir et c'est tout. Bien des sûr. Grands bus qui roulent au diesel et qui sont souvent vides. On va mettre des petits trucs électriques un peu plus souvent. Bref. Et puis, on n'est pas prêt psychologiquement. Je pense que le Français est encore très attaché à l'autonomie de sa voiture. Et puis, dernière chose, le transport en commun ne règle pas tous les problèmes. Personnes âgées, les gens, les familles nombreuses, quand on va faire les courses et tout, quelquefois, la voiture individuelle peut être très pratique. Je pense que ça nécessite une révolution. Alors, pas une révolution au sens piquet-fourche, une révolution au sens du dictionnaire, c'est-à-dire un brusque changement d'ordre économique, social, sociétal, qui permet aux gens de changer la façon de fonctionner. Mais je reste disais, il peut pas y avoir de révolution sans conscience, sans prise de conscience. Et je pense que tant que on n'aura pas fait prendre conscience à tout le monde, et il faut embarquer tout le monde dans cette révolution, on n'y arrivera pas. Mais la seule solution, c'est le transport en commun. Pour tous, mais vraiment pour tous.
Après, cette deadline a fait réfléchir.
Ah ben oui.
Ben bien sûr, parce qu'on se pose tous. Moi, je me posais pas la question il y a deux ans, par
et
exemple, de passer à l'électrique.
Problème.
Ben je me suis dit que je vais faire un pas et je vais prendre de l'hybride histoire de m'habituer. Mais mon concessionnaire me disait que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se préparent à ça en fait.
Bien
et
sûr.
Parce qu'il y a cette date de 2035, qui pour une fois, parce que d'habitude on est toujours dans des trucs hyper abstraits. Là, c'est super concret et tu sais qu'en 2035, tu pourras plus acheter de.
Sauf qu'on va laisser.
Ça paraît pas si loin que ça, 2035.
Mais non. 2030, c'est dans 12 ans. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour plus de 12 ans. Donc, en fait, et c'est la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant, est-ce qu'il faut acheter plus tard? Mais en tout cas, ça pose quelque chose de concret pour les gens, enfin, finalement, quand même, Mathilde.
Oui, mais je pense que le problème, c'est pas l'objectif, c'est les moyens d'y parvenir. Et là, évidemment qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Moi, je suis écolo, je vis en zone rurale, je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique, alors que je sais l'importance de cette
achat. Pas de borne.
Pardon ?
T'aurais pas de borne de recharge.
J'aurais pas de borne. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Mais je veux dire, comme d'habitude sur ces sujets-là, on a pris du retard. Et du coup, on a la moitié des entreprises qui produisent les batteries et toute la chaîne de valeur qui est aujourd'hui en Asie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entreprises pionnières en France et en Europe, avoir de l'emploi en France et en Europe, on a à nouveau un train de retard sur ces questions-là.
On essaie de le combler quand même un peu.
Est-ce qu'on peut rectifier le tir ? Exactement, Thierry. Moi, je pense que oui. Les conditions qui sont posées par les constructeurs eux-mêmes, c'est l'abondance d'énergie renouvelable. Ça fait 30 ans que les écolos le poussent. Il y a un plan d'énergie renouvelable qui arrive sur la table de l'Assemblée nationale. Il n'est pas à la hauteur pour le moment de ce qui est proposé par la majorité. Est-ce qu'il va y avoir des amendements qui vont passer? On espère que oui, pour que ça permette la voiture électrique demain. Il n'y a pas d'infrastructure de recharge. Pareil, ça fait 20 ans qu'on en parle.
Mais ça, c'est incroyable.
Évidemment qu'il faut mettre
à Paris, c'est formidable. Mais alors, dès que vous allez à la campagne, c'est infernal.
On est d'accord.
Et il y a un troisième enjeu qui est aussi comment est-ce qu'on favorise certains types de véhicules. Parce que le gros SUV électrique, c'est une aberration. Écologique, c'est une aberration économique. Donc ce type de véhicule-là, il ne faut pas les encourager. Par contre, le petit véhicule électrique, il consomme beaucoup moins de lithium et tous ces matériaux rares dont on va avoir besoin. Et donc ça, c'est aussi comment est-ce qu'on pousse pour... Il y a toute une palette entre la voiture classique et la voiture électrique qui existe. Il y a des voitures beaucoup plus légères qui existent. Il y a aussi le vélo électrique.
Mais si elles sont légères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de batteries. S'il n'y a pas beaucoup de batteries, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie. Donc en fait,
et puis elles
ne
sont pas très grandes, les petites voitures.
Mais ça dépend de
quand
tes besoins.
Quand tu as 4 enfants, c'est compliqué.
Thierry a raison de dire que l'enjeu, ce n'est pas seulement de passer à la voiture électrique, c'est de changer un certain nombre de choses. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand
il dit sauf que la voiture, pour beaucoup de Français, c'est la liberté. Et en fait, le truc, c'est que par exemple, moi, pourquoi j'ai pas pris une voiture électrique? Parce que je veux pouvoir me dire à un moment que si j'ai envie de partir un jour loin, à 300 km, je peux le faire.
En Bretagne,
je ne dis
pour
pas,
être clair. Par exemple.
La Bretagne, c'est 460, je veux pouvoir le faire. Je ne dis pas que je vais le faire, mais je veux avoir dans la tête que c'est possible. Et aujourd'hui, avec de l'électrique, c'est pas possible. Et ça aussi, c'est un frein. C'est-à-dire que, bien sûr que dans les usages, il y a beaucoup d'urbains, par exemple, qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de kilomètres par jour. Ou même beaucoup de gens qui habitent à la campagne qui ont besoin de faire 50 km par jour. Mais ça veut dire que si tu veux prendre ta voiture pour un plus long trajet, tout d'un coup, tu vas être obligé de louer une autre voiture.
Mais je suis complètement d'accord.
Et c'est ça qui
et pour moi, la voiture aussi est un symbole de liberté. Et en zone rurale, t'as pas le choix que d'avoir une voiture aujourd'hui. Même si t'as des un certain nombre de trajets que tu peux faire en vélo électrique aujourd'hui.
Bien sûr.
Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toute une modification à avoir du système dont on a pensé les déplacements aujourd'hui. Il y a des déplacements qu'on peut supprimer, annuler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a construit des zones commerciales en périphérie qui font que tous les jours, tu dois prendre ta bagnole pour aller faire des courses.
Oui, tout à fait.
À pied gros, la classe,
boulot,
là où je vis.
Au boulot,
t'as un bar, t'as pas de supermarché. Bah, je suis obligé de prendre la bagnole pour aller faire des courses. Ça, c'est ce genre de déplacement-là qu'il faut supprimer demain. Pour les longs trajets, comme tu le dis, moi, je pense que c'est la solution, c'est le train.
Bah oui.
Et quand on voit que le train est aussi cher, ça n'est pas
possible. Sauf si t'es dans un bled, sauf si...
Oui, le train, moi, je suis désolé.
Le train, il dessert pas toutes
pour
les gares,
Tu peux aller avec ta voiture, ta mini-voiture électrique, tu peux aller à la gare sans aucun souci.
Oui, mais encore une fois, certes, t'es obligé de t'adapter à un horaire. La voiture, c'est ça, tu t'adaptes pas à un horaire. T'as envie de partir à 22h, tu pars à 22h. T'as envie de partir à 5h du matin, tu pars à 5h du matin.
T'as pas la liberté.
Et en train, je suis désolé, il faut programmer. Alors, c'est très bien, c'est écolo et tout ça, mais il faut programmer. La voiture te permet de ne pas programmer. programmer. Et aujourd'hui, le fait de pas pouvoir, de pas programmer, de faire les choses quand on en a envie, c'est presque un luxe dans notre société actuelle.
Parce que tu disais, Thierry, on n'est pas
prêt à ça. Différence quand tu prévois des vacances. Pour les longs trajets dont on parle, on parlait de longs trajets. Tu prévois tes vacances en réalité.
Je suis d'accord. Mais donc, ta liberté, ça peut être aussi, sur un coup de tête, de pouvoir partir.
Même en prévoyant, quand t'as quatre enfants avec toutes les bardas, les affaires et les trucs, le train, c'est quand même pas très, très, très.
Mais d'où l'enjeu des bornes, on est d'accord. Et là, on a un retard monstrueux. Mais à nouveau, c'est pas les écolos qui ont dit faut pas de renouvelables, faut pas de bornes. Ça fait 20 ans qu'on pousse ça.
Vive le nucléaire.
En même temps, Thierry, un couple et quatre enfants dans une voiture, on commence à parler de transport en commun. Donc c'est moins problématique. En tout cas, de transport en commun. Non, il y a plusieurs choses. Effectivement, il va falloir en fait qu'on roule moins. Il va falloir qu'on se déplace moins et qu'on se déplace moins tout seul. Et comme personne n'y est prêt, mais tous individuellement, ça nous gonfle. La voiture, effectivement, elle a cette, même quand c'est cher, même quand le carburant est hors de prix, même quand ceci, même quand cela, je pars quand je veux. J'arrive pas forcément quand je veux, parce que la circulation routière, ça. Oui. Mais je pars quand je veux. Il y a ce sentiment. Il va falloir effectivement qu'on aille vers le fait qu'on sera plus propriétaire de la voiture, mais qu'on achètera l'usage. Si je prends le train pour faire la grosse partie du trajet, l'éternel problème, ça deviendra en fait comme pour la logistique. C'est le dernier kilomètre. Le fameux dernier kilomètre qui pose des problèmes à tous les logisticiens du monde. Ça va devenir aussi un problème à gérer pour les déplacements personnels. Et c'est effectivement vers ça qu'il faut qu'on aille. Et le transport en commun va aussi commencer par l'autopartage. Je ne suis plus propriétaire de ma voiture, j'achète juste le service. Alors évidemment, ça nécessite des infrastructures énormes, ce qui, à mon avis, réglerait la problématique de l'emploi. Moi, le coût de l'emploi, je veux dire, on a fermé les mines de charbon, on a inventé les moissonneuses-batteuses. C'est vrai que ça a supprimé de l'emploi, tout ça. Énormément d'emplois. On supprime tous les matériels agricoles. Vous allez voir, il va y en avoir du boulot dans les champs. On rouvre les mines de charbon, c'est super en main d'œuvre. Non, c'est pas grave que les emplois disparaissent. Mais non, ça nécessite aussi des plans de formation qu'il aurait fallu eux aussi anticiper il y a 20 ans pour permettre aux gens de faire autre chose. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un mécanicien thermique en automobile, il ne peut pas forcément s'occuper effectivement d'une voiture électrique. Parce que d'abord, il y a des tâches qui n'existent plus, il y a des tas de métiers qui n'existent plus quand on passe du thermique à l'électrique. Mais il y a un nouveau besoin de choses, il y a aussi besoin d'infrastructures, il y a aussi besoin d'accompagnement. Il faut le réfléchir. En plus, il faut réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore former, et je sais que d'ailleurs, des syndicats et des organisations patronales y réfléchissent aussi, est-ce qu'il faut encore former des mécaniciens moteurs thermiques aujourd'hui? La question doit se poser. La question doit se poser exprès parce qu'aujourd'hui, on continue de faire des CAP de mécano thermique.
De mécano électrique.
Ce qui n'a aucun sens. Donc le vrai sujet, c'est comment on se met enfin à anticiper. Il est peut-être effectivement trop tard. Et puis surtout, de toute façon, comment on arrêtera ça petit à petit. Et au risque d'être un peu désagréable, il faudra forcément aussi un peu de contraintes. Parce qu'individuellement, on n'aura jamais envie d'abandonner cette liberté qui est je pars quand je veux, je mets ce que je veux dans ma voiture. Exactement. Je suis tout seul, tranquille dans ma voiture.
Et j'écoute
ma musique comme je veux. J'ai personne qui me casse les pieds. Pour les fumeurs, je peux fumer la fenêtre ouverte quand il y a des bouchons sur l'autoroute. Passe, c'est des meilleurs. Et ça, personne ne l'abandonnera de gré. Jamais. Il y aura toujours quelques personnes très vertueuses, mais qui ne seront jamais la majorité du genre. Et il faudra forcément de la contrainte et de l'obligation. Alors, est-ce que la contrainte sera économique? Ça viendra tellement hors de prix que ce sera plus possible. Mais là, ce sera du coup une inégalité parce qu'il y aura toujours quelques très riches qui pourront. Alors, et ça, c'est pas juste.
Politique, hein.
Et ça, c'est dégueulasse. Il faudra effectivement une véritable contrainte.
Alors,
sinon,
on sait qu'il serait dans un instant le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, mais on a beaucoup d'appels sur ce sujet parce que c'est bizarre. On a David, qui nous appelle de Soisy sous Montmorency dans le Val d'Oise et qui est concessionnaire de véhicules d'entreprise. Alors, bonjour David.
Bonjour.
Alors, David, est-ce que vous pensez qu'on fait une erreur en voulant passer au tout électrique, vous qui êtes concessionnaire ?
Non, c'est pas une erreur, c'est contraint de toute façon. C'est une obligation.
Ah, David, alors vous avez été coupé. Écoutez, on vous retrouvera tout à l'heure. On va prendre Vincent qui nous appelle de Cannes. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour
à tous les intervenants, les chroniqueurs.
Bonjour.
Attentivement. Ouais. Moi, je trouve que c'est complètement aberrant, cette histoire d'électrique. Parce que je trouve qu'un véhicule électrique, il n'y a pas plus polluant que ça. Et en plus, je roule en...
Comment ça, il n'y a pas plus polluant dans la fabrication?
C'est pas la même pollution.
Exactement.
Oui, ça dépend quel type de véhicule électrique.
J'allais vous dire, le prochain milliardaire, ironiquement, au monde, sera celui, la personne qui trouvera le recyclage de la batterie.
Ah ben ça, on est d'accord. Bon, enfin, ça a fait des progrès quand même.
Celui qui a fait des progrès, le recyclage de la batterie sera le milliardaire, il dépassera Amazon et compagnie. Hein. Mais non, moi je suis anti-véhicule électrique, plutôt l'hybride.
D'accord.
On garde les véhicules thermiques et en même temps, je sais qu'il y a un intervenant qui intervient dans les GG, monsieur
l'ancien
ministre des Transports.
Ah non, Jean-Baptiste Djebbari.
Exactement, et je suis plutôt pour l'hydrogène, même si je sais que ça a une grosse consommation au niveau électrique pour créer l'hydrogène. Mais ça fait 20 ans déjà qu'une marque allemande qui est de Bayer Motorwagen, pour pas citer.
Voilà. Mais après, en fait, le truc,
beaucoup de personnes japonaises aussi ont investi, et même coréennes, dans l'hydrogène.
Oui, non, mais bien sûr, Vincent. Mais après, l'hydrogène, il y a aussi des désavantages. De toute façon, il y a des désavantages dans les trois systèmes. Mais celui qui a l'air le plus vertueux, c'est quand même aujourd'hui l'électrique, même si on est en retard. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. En tout cas, Alric nous appelle de Bazas en Gironde. Bonjour, Alric.
Et bonjour.
Et vous, Alric, vous roulez en électrique?
Tout à fait, en Renault Zoé.
Et vous êtes content?
Très content.
D'accord. Vous avez changé quand?
Même ma deuxième voiture électrique.
Et à Bazas, en Gironde, vous arrivez à trouver des bornes sans problème?
Bazas même, ouais, j'ai quelques bornes. Après, d'accord. Moi, j'ai ma première Zoé était en 2019, donc on avait pu profiter à l'époque où Renault faisait l'opération une voiture électrique, on vous offre votre borne de rechargement.
Ah, très bien, ok.
Donc moi, j'ai ma propre borne de rechargement rapide à la maison. Ça me coûte à peu près, sachant que je travaille sur Bordeaux, donc je fais environ 126 km aller-retour.
D'accord.
Par jour, et j'ai ma borne à la maison, je recharge, ça me coûte à peu près 70 euros mensuels.
Et à vous, ça vous coûtait combien avec de l'essence?
L'essence, c'était un plein par semaine.
Ah oui, d'accord.
À l'époque, c'était 70 euros le plein à peu près, donc 70 euros par semaine de plein.
Ouais, 280. Donc.
Voilà. Là, j'ai ma propre station à maison. Après, voilà, comme on disait, 2035, je pense que c'est encore un peu tôt. Après, la technologie peut aller rapidement. Mais ouais, je pense que quand vous parliez de vacances, ça va être plus compliqué pour ceux qui habitent vraiment dans le centre de la France que ceux qui sont idéalement placés comme nous. Parce que moi, c'est ma voiture familiale, je m'en sers pour aller en vacances, je m'en sers pour travailler, je m'en sers toujours parce que j'ai ma propre station de charge.
Mais c'est ça.
Et je suis idéalement, géographiquement, je suis bien placé. Je suis à une heure de l'océan,
Ça, mais c'est ce que vous dites. En fait, vous êtes équipé. Vous êtes équipé dans votre ville et dans votre maison. Et ça, c'est évidemment l'idéal. Et quand on a cette chance-là, c'est plus facile à passer à l'électrique que quand on est dans un appart, au septième étage d'une tour. Là, c'est sûr que c'est plus compliqué. Voilà. Et qu'on n'a pas de parking. Merci, Alric, d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. Ah, Pierre Chasseret. Ça faisait longtemps, tiens. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Votre marotte, le véhicule électrique. Vous avez dû être content en lisant l'interview de Thierry Breton dans Les Échos?
Ouais, ni plus ni moins, en fait. Si vous voulez, Estelle, c'est du bon sens. Le principe, c'est de se dire, il faut pas opposer les styles. Là, j'entends notre ami de Gironde qui dit, je roule à l'électrique, c'est mon véhicule perso, c'est super, j'ai une borne. Et donc, une place de stationnement pour charger. Franchement, je suis très heureux pour lui. Il a donc le véhicule qui correspond à ses besoins.
Exactement.
La difficulté, c'est que, j'entends aussi, Estelle, quand tu dis, moi, je vais en Bretagne de temps en temps, il faut que ma voiture efface au moins les 400 bornes qui me conduisent à mon domicile. Là-bas. Et je l'entends aussi, et effectivement, le choix de l'hybride est peut-être le bon choix aussi. Et il faut entendre le choix de chacun. Le problème, c'est qu'en France, on aime, et en Europe aussi, on aime fixer des caps. Là, on a mis 2035, arbitrairement, parce que ça sonnait plutôt pas trop mal. Sauf que quand on regarde les besoins et effectivement le budget des automobilistes européens, parce qu'il n'y a pas que les Français, il y a les Européens, eh bien, on s'aperçoit très bien à l'avance que 2035, c'est pas tenable. Moi, je vois du côté de la FEDA, vous voyez, c'est la distribution de pièces automobiles indépendantes. Et bien, eux, de leur côté, c'est une catastrophe économique. Parce que fondamentalement, il y a véritablement des emplois derrière. Et donc, je suis en
600
opération.
600 000, dit Thierry Breton. 600 000 destructions d'emplois.
Voilà. Donc, ça, au bout d'un moment, il va falloir le financer aussi. Et il faut sortir. Il faut sortir de ce discours ambiant qui consiste à dire, on sait bien que l'automobile, dans 10 ans, sera partagée. Ah bon? On sait bien qui? Qui sait bien? Moi, je ne lis pas dans le marre de casser. Le véhicule, il est loin, loin, loin d'être traitable parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un besoin automobile, on en a tous besoin au même moment, au moment où on va en vacances, au moment où on rentre, on emmène les enfants à l'école, au moment où on sort de l'école. Il faut arrêter avec le mythe de l'automobile partagée. Ça touchera peut-être une minorité, c'est un type de besoin, mais ce n'est pas le besoin de tous. Donc, arrêtons de vouloir faire du 100% électrique ou du 100% hydrogène ou du 100% thermique. Le bon sens, c'est d'accompagner les automobilistes vers le bon choix automobile et surtout, parce que là, en ce moment...
Après, sur des véhicules non polluants, en tout cas. Alors après, il peut y avoir d'autres choix que l'électrique, mais qui polluent le moins possible, avec une vignette 1, finalement, critère 1, quoi.
On y est. Je vous parle en ce moment, je suis à Montpellier, sur une opération... sur les zones à faible émission. Vous savez, oui. Les zones qui vont exclure oui. La moitié des Français. Et je sors d'une conférence de presse où on m'a posé la question. On m'a dit, donc, vous êtes pour le thermique puisque vous êtes contre. Mais je suis pas ni pour ni contre. Je défends 40 millions d'automobilistes qui ont des besoins différents. Dans ceux qui nous écoutent actuellement, il y a ceux qui ont des vignettes critères 5, pas les moyens de changer leur véhicule. Il y a ceux qui ont la bonne vignette et qui ont peut-être pas les moyens d'acheter un véhicule neuf à leur gamin ou pas les moyens de passer à l'électrique. Il y a ceux qui roulent à l'électrique et qui ont besoin aussi d'entendre que l'électrique, c'est une super solution pour ceux qui ont fait ce choix-là. Il faut agir avec pragmatisme et comprendre une chose.
D'accord.
Le véhicule qu'on considère propre aujourd'hui, c'est le véhicule qu'on considérera polluant dans 10 ans. Le véhicule électrique d'aujourd'hui sera dépassé technologiquement dans 10 ans.
Oui.
Et comprendre ça, c'est fondamental. C'est ce qui permettra de prendre des mesures politiques un petit peu... des mesures complètement déconnectées de la réalité qui consistent à mettre des calendriers à 2035 alors que personne n'en sait rien.
Oui, donc il vaudra mieux acheter dans 10 ans. Martin.
Franck, qui nous écrit notamment sur Direct Studio, il possède une voiture électrique, mais il s'aperçoit, Franck, c'est ce qu'il nous raconte, que la voiture thermique reste indispensable car il y a souvent des problèmes de charge. Les prix pour recharger les voitures sont aléatoires d'une commune à une autre ou d'une région à l'autre. Et donc, parfois, ça complique la vie de Franck. Et puis, petite précision, on parlait tout à l'heure de la pollution engendrée par les voitures électriques. Je disais, pour qu'une voiture électrique rattrape le bilan carbone d'une voiture thermique, en gros, il faut que cette voiture électrique roule plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Il y a plusieurs chiffres qui sont avancés, mais en gros, c'est entre 50 000 et 200 000 kilomètres pour que le bilan carbone de la construction de la voiture électrique soit rentabilisé écologiquement.
Bah, c'est énorme.
C'est important.
Ah oui, c'est quand même.
Entre 50 000 et 200 000, c'est plus une fourchette, là.
Bah, en fait, ça dépend des sources.
Par exemple, c'est l'ordre d'agir. Il y a quand même un gros débat, visiblement.
L'ex-PDG de PSA disait 200 000 km. Le constructeur Polestar lui dit 80 000 km. Voilà, il y a plusieurs. Mais en tout cas, c'est plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres. 80 000 km, je mets 8 ans à les faire. Donc,
mais ça dépend à nouveau de quel site électrique on parle.
Exactement.
Si on parle de véhicules électriques lourds, gros, les SUV électriques, à nouveau, je dis, c'est une hérésie écologique. Des petits véhicules légers. Mais tu peux avoir des petits véhicules légers où t'as trois enfants. Quand je dis petit, ça veut mais juste pas dire les énormes bagnoles qu'on te sort aujourd'hui.
Un petit véhicule avec trois enfants, c'est compliqué.
Mais je parle pas de, quand je dis petit, c'est en termes de poids. À nouveau, on a une réglementation qui est mal foutue là-dessus. Parce que plus t'as de poids, plus ta batterie ou ton essence, elle se crame pour porter le propre poids de la voiture. Et donc, c'est là où c'est une hérésie écologique. C'est-à-dire que tu mets une batterie qui va fonctionner pour porter la voiture. Donc, ce qui est important à mon sens, c'est en effet d'être pragmatique, mais c'est aussi d'anticiper. On voit bien sur tous ces sujets-là, sur les questions énergétiques, qu'on a mal anticipé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont contraints par le prix. Et si on veut ne pas mentir aux gens, la réalité, c'est que sur l'essence, si on ne fait rien, qu'on promeut pas l'électrique, qu'on ne promeut pas les transports en commun, qu'on ne promeut pas le train, qu'on n'évite pas un certain nombre de déplacements, les gens vont être piégés à nouveau parce que les prix de l'essence vont augmenter. Et donc cet enjeu-là,
on ne connaît pas non plus les prix de l'électricité dans 10 ans.
Et oui, c'est ça.
Non, mais on peut avoir un impact là-dessus. Alors que sur le prix de l'essence, c'est l'OPEP et les pays pétroliers qui ont la main.
D'accord.
Sur la question électrique, c'est à nous de voir le renouvelable. Combien est-ce qu'on
le
en
nucléaire,
est le nucléaire. Quel choix on fait. C'est ça les débats qu'il faut avoir aujourd'hui.
Esteban nous appelle de Bordeaux et il est vendeur automobile multimarque. Bonjour Esteban.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Dites donc, ça doit bien marcher l'électrique en ce moment parce qu'apparemment les ventes cartonnent.
Eh bien, pas tant que ça. Alors moi, c'est vrai que comme j'expliquais au standard, je propose pas énormément d'électrique. Déjà parce que j'ai pas beaucoup de demandes. Nous, c'est vrai qu'on achète ce qu'on nous demande le plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur du thermique. Aujourd'hui, le thermique, même si ça reste du thermique, les moteurs sont de plus en plus petits, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même... ils dégagent moins de CO2, il y a moins de consommation qu'avant, ça c'est sûr. Et même sur de l'électrique, c'est vrai que nous aujourd'hui, quand je discute avec des clients, je vois qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à passer à 100% électrique. Donc,
qu'est-ce qui les freine, vos clients?
L'autonomie, le tarif, forcément.
Oui, bien sûr.
Parce que quand on voit aujourd'hui le prix d'un véhicule électrique, qui est une autonomie, on va dire, intéressante pour la majeure partie des clients, forcément, aujourd'hui, on tape à du budget que les clients n'ont pas.
Oui, c'est ça, parce qu'une Tesla, je crois que le premier prix d'une Tesla, c'est 47 000 euros.
Non, mais la Tesla, c'est vraiment le véhicule.
C'est la voiture de luxe, et qui te permet d'avoir une autonomie de 500 km.
Mais tu vois, sur ce sujet, le leasing, ou un abonnement par mois, Pareil, ça c'est une proposition qui existe depuis longtemps. Il y a deux ans, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat l'avaient proposé. Ça te permet d'accéder à une voiture électrique quand tu n'as pas les moyens d'acheter et qu'il n'y a pas
alors,
de renouvelable.
Alors le problème de ton leasing, c'est qu'à la fin de ton leasing, tu es obligé de revendre ta voiture et tu ne sais pas du tout comment vont se revendre les véhicules électriques parce que tu ne sais pas comment vont vieillir les batteries, etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la vente de l'électrique. Et donc tu prends un risque quand tu prends un leasing électrique. Et le leasing, il n'est pas $1. Hein. C'est pas parce que tu payes chaque mois. Je veux dire, mais à la fin, tu perds quand même le prix de ton véhicule.
Il est quand même moins douloureux que l'achat qui est juste inabordable.
Oui, mais dans ce cas, si tu fais un achat à crédit, tu rembourseras les mensualités. C'est comme le leasing, en fait. C'est la même chose.
Oui, mais dans le cas de Télévette, tu as aussi ton entretien. Et aujourd'hui, sur des voitures, en tout cas, quand tu roules un peu beaucoup, ce qui est mon cas, hein, je fais facilement 40 000 km par an. Donc, évidemment, j'ai une problématique d'électrique parce que mon temps de trajet s'allongerait d'autant s'il fallait que je m'arrête tous les 300 km pour recharger. Donc aujourd'hui, je suis pas encore un client de l'électrique, pas par conviction, mais parce que j'ai pas effectivement forcément le choix. Et c'est un problème, c'est qu'en fait, les gens qui roulent beaucoup pourraient rentabiliser l'électrique, sauf que comme ils roulent beaucoup, si tout le monde fait 10 km sans arrêt, mais c'est pas le cas, quand on roule beaucoup, on fait de longues distances, pas de l'acheter. Et les gens finalement qui sont des petits rouleurs, j'en vois dans ma famille, en miroir, etc., qui seraient des clients de l'électrique en termes d'usage. Aujourd'hui, le prix est un frein. Donc, il y a effectivement une mise à l'échelle entre le besoin et le prix. Mais le LOA, effectivement, si dedans, t'as aussi ton... L'avantage du LOA, c'est dedans, t'as ton entretien. C'est-à-dire que tu sais, en début d'année, ce que va te coûter ta voiture pendant 12 mois.
Exactement.
Tu sais à l'avance ce qu'elle va se coûter. On est d'accord, mais
c'est cher. Hein.
Quand t'as une voiture que tu fais beaucoup de kilomètres, la moindre, une révision où il n'y a rien, t'en as pour 7 ou 800 balles à chaque fois.
Ah, mais ça, je suis d'accord. Il n'y a rien. Je suis passé en électrique. Je fais 120 km par jour, à peu près. Donc, c'est très rentable parce que j'ai économisé à peu près, j'ai divisé par 8 le coût de ma voiture, ce que je mets comme carburant dans ma voiture.
Oui, parce que ça m'a coûté plus cher.
Je n'ai aucun entretien parce qu'il n'y a pas de frottement.
Mais on est d'accord, c'est aussi une grosse économie d'électrique.
La seule question que je me pose, c'est dans 7 ou 8 ans, quand je revendrai la voiture, je ne sais pas ce que vaudra ma voiture.
Si mais dans le principe de la LOA, c'est qu'ils s'engagent à te la reprendre au bout de 3 ans.
Oui,
ils te la reprennent. L'acheter d'ailleurs. Faut la rendre.
Exactement. Mais enfin, encore une fois, je t'assure que ça a un coût et que la moindre rayure te coûte très cher. Merci en tout cas à Pierre Chasseret. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus sur ce sujet. Alors, on a fait une consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Et c'est vrai qu'on a de grosses différences depuis le début de l'émission.
Est-ce qu'on s'est trompé avec l'obligation du véhicule électrique en d'ici 2035?
Oui,
à 88%.
Ah oui, donc c'est un...
Il y a 12% d'utilisateurs de voitures électriques, non?
Non, pas tellement.
Allez, dans un instant, le zapping avec des extrêmes sur le meilleur des RMC. Faut-il expulser les locataires qui ne paient pas leur loyer? Doit-on sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme? Et puis, on parlera d'un collège près d'Avignon qui a fermé. Vous savez pourquoi il a fermé? Parce que le chauffage, ça coûte trop cher, dites donc. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC Story. On est dans Estelle Midi, évidemment, avec Martin Bourdin, Pierre-Edouard Magnan, Mathilde Himmer et Thierry Moreau. Et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin. Ce matin, faut-il expulser les locataires qui ne paient pas leur loyer? Ce matin, Mégane, propriétaire d'une maison dans la Somme, est à la rue car son locataire ne paye plus son loyer depuis plus de 15 mois. Et évidemment, il refuse de partir. Elle s'est donc placée devant sa maison avec des pancartes afin de réveiller l'opinion publique.
C'est ça, un locataire qui ne paye plus depuis 15 mois à peu près avec une dette à 11 500 €. J'ai plus de logement, ma mère est décédée et puis je me bats. J'ai suivi toutes les procédures, disons avec la justice. Ma mère avait entamé les procédures, j'ai repris, j'ai suivi tout jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, la semaine dernière, on m'a refusé l'expulsion avant la trêve hivernale. J'ai d'abord reposté sur les réseaux sociaux ma situation et ensuite je me suis dit que pour faire bouger les choses, il fallait se mettre devant avec des pancartes un petit peu partout. À passer mes journées, j'ai passé toute la semaine sur le trottoir. Et puis pour, disons, réveiller un petit peu l'opinion publique, pour faire bouger les choses. Parce que ça fait quand même 15 mois qu'il ne paye plus le loyer. En plus, ce monsieur travaille, donc ça ne m'empêche pas, dans ce cas-là, de continuer de payer le loyer, au moins s'il n'a pas d'autre toit.
Pierre-Edouard Magnan, on fait quoi pour Mégane? Parce qu'il y a la trêve hivernale, donc de toute façon, on ne peut pas expulser.
Pour Mégane, d'abord, si en l'occurrence son locataire est solvable, effectivement, ce qui est absolument inacceptable, c'est que les procédures, notamment de tiers détenteur, puissent pas se mettre en place en moins de 15 mois. J'aimerais rappeler d'abord quand même deux, trois choses basiques. C'est bon, quand on voit ce genre de cas, on ne peut être que solidaire de cette femme qui est seule dans la rue face à un locataire qui paye pas.
Oui.
La vraie vie à l'échelle normale, c'est que d'abord l'immense majorité des locataires dans ce pays payent leur loyer.
Oui.
J'aimerais rappeler parce qu'on a tendance toujours à sortir ces cas-là.
C'est bien, vous avez raison.
Qui sont
qui sont pas acceptables, évidemment.
Les trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Exactement. Oui. Donc, c'est bien de le rappeler que la majorité des locataires dans ce pays, voilà. Que deuxièmement, il y a plein de locataires. Si les salariés, normalement, il y a le dispositif qu'on appelait naguère, le 1% logement, et dont j'oublie le nom actuel, mais qui a changé de nom, qui est une cotisation que tout le monde paye, qui garantit les loyers et les impayés de loyers aux propriétaires. Ce qui est une vraie garantie. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent ça comme système de cautionnement. Il y en a encore trop de propriétaires qui croient formidable de demander le cautionnement d'un membre de la famille plutôt que de demander le cautionnement du 1% logement. Je suis désolé pour le nom. Je sais que c'est plus ton là, mais c'est le même
dispositif. Impayé, c'est pas quelque chose de mal.
Oui, enfin bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était dispositif là. Et après, si on a affaire à un locataire salable, on a juste affaire à un escroc. Enfin, je prends du principe. Mais si ce monsieur est solvable et paye pas, c'est un escroc. Il n'est effectivement pas normal qu'une escroquerie ne soit pas réparée en moins de 15 mois et qu'à tout le moins, le loyer ne soit pas prélevé par avis à tiers détenteur. C'est un dispositif légal qui existe, qui fonctionne très bien, qui oblige l'employeur à verser l'argent qui est dû à qui que ce soit. Ça marche souvent bien pour les impôts, savent très bien le faire. Il faut que la justice puisse le faire pour propriétaires privés. Voir que, comme pour les pensions alimentaires, même si c'est depuis peu de temps, dans certaines circonstances, la CAF puisse aussi se substituer à des mauvais payeurs. Alors la CAF ou une autre structure.
La jeune fille, c'est elle de faire un milliard de démarches, alors que c'est juste sa maison, en fait.
Et voilà, sa situation n'est pas acceptable. Et dans une situation, évidemment, qui est choquante. Et là, c'est tous les locataires sont pas des gens bien, tous les propriétaires sont pas des salauds. Et là, en l'occurrence, on a a priori à faire, je dis bien a priori, en fonction des éléments qu'on a, je mets tous les guillemets, un locataire qui est un malhonnête et une propriétaire qui est en fait victime d'un locataire malhonnête.
Oui, mais je vais être un peu provocateur. Est-ce que le droit, ces dernières années, n'a pas été trop en faveur de la protection du locataire par rapport à la protection du propriétaire ? C'est à toi qui es investi et militant de ce... Je te pose la question. Est-ce qu'on n'a pas...
Au nombre de mal logés, non logés en France, je ne dirais à l'échelle statistique pas ça. Après, ce genre de situation, je répète, je vais pas t'expliquer que cela dit. Du coup, comme c'est des propriétaires, un propriétaire n'est pas forcément riche, un propriétaire n'est pas forcément à l'aise, et un propriétaire peut être épais. En plus, il est propriétaire d'un bien qui en soi n'a pas de, on mange pas avec une maison. J'allais dire, on ne mange pas avec une maison.
C'est le petit propriétaire, en fait. Voilà.
On est d'accord.
Oui, en plus, c'est pas le logement de la BNP Paribas.
Bernard Arnault, si tu veux.
C'est bon, on prend souvent l'exemple de Bernard Arnault.
Oui, parce que c'est assez pratique.
Mais c'est pas.
Mathilde Emmer, est-ce qu'on doit réviser quelque part la trêve hivernale? Parce que là, Mégane, mais pendant 6 mois, de toute façon, elle ne pourra pas récupérer son logement.
La trêve hivernale, non. Par contre, c'est sûr qu'il manque un dispositif là pour répondre aux problèmes de cette personne-là. Et qui peut se poser de manière plus large, au-delà des personnes qui sont les escrocs. Je pense que cet hiver, on va avoir un problème entre des gens qui vont et qui travaillent pour certains, devoir faire le choix entre se chauffer, payer leur loyer et manger. Donc potentiellement, on va avoir plus de gens qui vont dans cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Il y a une différence entre des gens qui sont des escrocs. Là, moi, je ne sais pas la situation. A priori, c'est un escroc. Moi, je pense qu'il y a une loi à faire passer de dire les personnes qui ont moins de 2 logements en tant que propriétaires devraient avoir une garantie dans ce genre de situation pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais il y a aussi...
Toi, tu n'es pas pour la suspension de la trêve hivernale quand c'est un cas
comme
alors,
ça.
Je ne sais pas si c'est
en fait,
le cas.
On ne sait pas si c'est un escroc.
Non, mais tu vois si on considère, avec toutes les précautions d'usage, que c'est un escroc patenté, est-ce qu'on ne peut pas, dans certains cas, faire en sorte que la trêve hivernale n'existe pas quand il y a escroquerie manifeste?
Si, escroquerie manifeste, oui, mais en attendant, le temps que tu prouves qu'il y a escroquerie manifeste, la personne qui est propriétaire, elle reste dans la palette. Donc moi, je préfère avoir un système qui garantit directement le propriétaire et qui permet aux locataires qui vont véritablement être en galère de ne pas non plus être
exclus. Et quand t'es injuste, c'est jamais facile de mettre des gens dehors. Parce que concrètement, c'est ça aussi le sujet. Et du coup, c'est que t'en mets un autre dehors.
Enfin, il a un salaire.
Apolline Matin sur Matin.
Il y a de plus en plus de gens qui ont un salaire et ça ne suffit plus pour vivre, Thierry, dans ce pays.
Apolline Matin ce matin, doit-on sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme? À partir de ce vendredi, les femmes travaillent gratuitement selon la lettre d'information féministe Les Glorieuses. Et face à ces inégalités, la présidente du Haut Conseil, Sylvie Pierre-Bossolette, demande l'arrêt de subventions pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme.
C'est quand même quelque chose de basique, l'égalité des salaires. Elle a été votée en 1972 et on n'y est toujours pas. Et je suggère, et le HCE suggère avec moi, un bon moyen de le faire qui s'appelle l'EGA conditionnalité, c'est-à-dire de ne pas donner d'argent public aux entreprises et aux institutions et aux organismes qui bénéficient de subventions publiques s'il n'y a pas l'égalité des salaires à l'intérieur de ces organismes ou organisations ou entreprises.
Est-ce qu'il faut condamner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme, Mathilde ?
Moi, j'aime bien la proposition qui est faite de dire on conditionne les soutiens publics, l'argent public, au fait qu'il y ait une égalité salariale. Oui, je trouve que c'est une bonne proposition. Et je rappelle d'ailleurs...
Que ce soit à poste égal, en fait. Parce que le problème, c'est que si tu fais une moyenne des salaires dans une entreprise, si tu as par exemple plus de temps partiel chez les femmes et plus de postes à direction chez les hommes, tu vas te retrouver évidemment avec une inégalité. Il faut regarder à poste égal.
Bien sûr, à poste égal, mais tu as aussi tous les métiers du lien qui sont beaucoup occupés par les femmes, qui sont souvent sous-payés. Pourquoi est-ce que les infirmières sont sous-payées? Pourquoi est-ce que les auxiliaires de vie sont sous-payés? Et donc, il y a aussi un enjeu, au-delà du poste égal, de ces postes-là qui font aussi que la société tient. Comment est-ce qu'on les revalorise en termes de salaire?
Le bâtiment, c'est pas très bien payé non plus.
Bah pour y travailler en tant que femme dans le bâtiment, je vois bien que c'est pas très bien payé. Et il y a de plus en plus de métiers qui sont utiles à la société, qui sont sous-payés, parce qu'on regarde les travailleurs manuels en France avec un certain dédain, et on survalorise les métiers intellectuels. Donc oui, il y a une question sur la question des salaires, mais pour revenir à l'égalité homme-femme, je reviens sur la question des retraites. Il y a une étude qui montre aussi clairement que s'il y avait une égalité salariale femme-homme, on n'aurait pas de problème pour financer les retraites.
Il y aurait plus de
cotisations. Il y aurait plus de cotisations.
Mais donc c'est un enjeu. On voit bien que ça peut permettre aussi, de régler des problèmes qu'on se pose et qu'on s'invente un peu tout seul. S'il y avait de l'égalité salariale dans ce pays, il n'y aurait même pas cette question de la retraite sur la table.
Après, moi, j'ai envie de te répondre. Les gens qui nous proposent toutes ces lois-là sont quelquefois des partis politiques qui préfèrent payer les amendes qui sont infligées aux partis politiques qui ne mettent pas à des postes éligibles à l'Assemblée notamment. Alors, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, mais il y a encore aujourd'hui à l'Assemblée des partis politiques qui préfèrent payer pour ne pas avoir à des postes éligibles autant d'hommes que de femmes. Donc, je pense que l'exemple, il doit aussi venir d'en haut.
Complètement d'accord.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut aller plus avant et plus, parce que je crois que ça bouge de 0, quelques pourcent par an. Donc, ça veut dire que l'égalité de femmes
atteindra
dans, je sais plus combien de
temps. Dans leur baromètre, l'année dernière, c'est le 3 novembre et là, aujourd'hui, c'est le 4 novembre, en fait.
C'est ça.
Exactement. Vous êtes pour, justement, le fait que les entreprises soient pénalisées lorsqu'elles ne respectent pas cette égalité?
Pénaliser tous ceux qui sont des fauteurs d'inégalité, d'une manière générale.
D'accord.
Après, effectivement, le sujet est double. Il y a d'une part éventuellement des salaires qui ne sont pas de même niveau, alors notamment liés aux arrêts liés au congé maternité, qui est une des principales causes aussi du retard salarial, notamment dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Mais évidemment, il faut aussi s'occuper de l'autre bout de l'omelette, si je peux dire. C'est effectivement de permettre aux femmes d'avoir des carrières professionnelles qui sont équivalentes à celles des hommes. Et ça marche aussi en termes de métier. Je vais faire une petite boutade, mais comme je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis président d'une association d'aide à domicile qui a plus d'une centaine de salariés, 100% de femmes. Je suis assez tranquille. Il y aura pas de problème d'égalité femmes-hommes, sauf qu'effectivement elles sont sous-payées, et elles sont sous-payées tout simplement parce que c'est les niveaux d'APA et les prises en charge, parce que c'est pas, on est une association, donc c'est pas, je suis pas propriétaire de la boutique, mais c'est veut dire que à nouveau le sujet il doit être pris par plusieurs bouts. Ça ne peut pas être juste, parce qu'il y a de moins en moins d'endroits où, objectivement, à un poste équivalent, parce que t'es une femme, on va te payer 10% de moins.
Ça
marche rarement de manière,
ça y est, quoi, ça
de manière comme ça. Mais notamment, rien que l'impact des congés maternité sur les niveaux de salaire est extrêmement important, sur la progression de carrière et sur les salaires. Rien que ça, déjà, ce serait une grosse avancée, et c'est pas très compliqué à rectifier.
Dernier extrait dans ce zapping. Les grandes gueules ce matin. Faut-il porter le masque au quotidien? L'Académie de médecine estime que le masque redevient nécessaire. Et pour Mehdi Ghezard, le chef d'entreprise des GG, on ne peut plus faire confiance à ces épidémiologistes de plateau qui affirment tout et leur contraire.
Mais qui aujourd'hui, en 2022, croit encore à ces épidémiologistes ou à ces médecins de plateau?
Tu mets le masque
à chaque fois, enlève-le, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre.
Non,
ils disent comme quoi il redevient nécessaire, que le masque redevient nécessaire.
Ah oui, parce qu'il y a des.
Il n'y a pas dit obligatoire.
Bah, pas encore. La même Académie de médecine qui, en 2019, disait que le masque ne servait strictement à rien.
C'est bien eux. Ah, ben on a évolué.
C'est bien eux. Ah, on a évolué.
Maintenant, ça fait des années, non?
Voilà, ça fait des années. Comme disait Olivier Véran, ils ont du recul.
Non, il imitait le docteur Marty là.
Non, mais Olivier Véran disait il faut du recul. Ben voilà, ils ont du recul maintenant.
Est-ce qu'il faut porter à nouveau le masque, Thierry Moreau, même si effectivement les avis sont contrastés sur la question?
Là où Mehdi Ghezard se trompe, c'est que ce ne sont pas des médecins de plateau qui disent ça, ce sont des collèges d'experts qui sont plutôt compétents en la matière. On l'a redit ici et ici et encore, on va avoir des vagues.
Après, c'est aussi pour la grippe et la gastro.
Et à chaque fois, le bon sens doit prévaloir. Moi, je le vois, j'ai toujours un masque dans ma voiture. Quand je vais dans un endroit où il y a du monde, je mets le masque. Quand je vais dans un endroit où je suis tout seul à la campagne en train de me promener, je mets pas le masque. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je veux bien qu'on s'énerve contre les médecins de plateau. D'abord, il y en a de moins en moins parce que
le vent, c'est des militaires de plateau.
C'est moins un sujet. Maintenant, c'est
les militaires. On les a remplacés par des militaires.
Et, les géopoliticiens.
Tous les généraux en retraite sont sur les plateaux télé.
Et les géopoliticiens. Quelquefois, d'ailleurs, je sais pas si c'est les mêmes, mais non, c'est pas les mêmes.
Il y a peut-être des médecins militaires.
Je fais confiance dans les instances du pays qui nous disent attention, vous feriez bien de remettre un petit peu le masque. C'est pas contraint, c'est du bon sens. Voilà, c'est tout. On nous responsabilise.
Allez, dans un instant, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait pour nous le tour de l'actualité de la presse quotidienne régionale. Et puis, juste après, à 14h, on parlera d'amour et d'argent avec le conjoint. Est-ce que c'est une bonne solution, le conjoint, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des comptes séparés? À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi, on est vendredi. Et le vendredi, eh bien, c'est le journal décalé de Paul Lassen. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le journal décalé.
Et Paul Lassen qui fait chaque semaine le tour de la presse quotidienne régionale.
Oui, et c'est un plaisir de vous revoir.
Oui.
Votre retour me touche.
Oui, c'est une semaine, ça va, on peut en faire.
Oui, mais une semaine, c'est très long.
Oui, c'est vrai.
Des nouveautés depuis le 1er novembre, la publicité lumineuse est interdite la nuit, mais il faut savoir que certaines communes aussi ont décidé de se mettre au pas pour l'éclairage public et certaines font même contribuer les citoyens. Direction Saint-Brieuc en Bretagne,
c'est ma ville,
où le maire nous explique qu'il va donner la possibilité à ses administrés de gérer eux-mêmes l'éclairage public. Alors comment ? Tout simplement avec votre smartphone, Estelle. Si vous allez à Saint-Brieuc, vous téléchargez l'application J'allume ma rue et de là, vous pouvez gérer l'éclairage de la rue dans laquelle vous êtes, où vous allez vous trouver. C'est-à-dire que vous baladez dans Saint-Brieuc la nuit, imaginons.
C'est pratique.
Bon, déjà,
vous pouvez décider d'allumer la lumière de la rue dans laquelle vous allez passer.
Moi, je veux que ce soit éclairé quand j'arrive, excusez-moi, mais...
Bah, vous anticipez un peu dans ce
cas-là. D'accord, en fait, j'anticipe mon trajet, donc 10 minutes avant, je vais aller sur Mappy et puis je vais aller éclairer toutes les rues dans lesquelles je vais
allumer. Oui,
bah oui.
Dans les grandes villes. Tout le monde va demander, on a
bien
les yeux.
Bien sûr.
C'est peut-être pas valable dans les grandes villes, mais en tout cas, les Brieux
n'est pas une grande ville.
Ah bah tant mieux.
Très satisfaits, notamment pour des raisons de sécurité. C'est un des sujets qui revient souvent sur l'éclairage la nuit. C'est un geste pour l'environnement, mais aussi pour les caisses de la ville, dont le budget éclairage pour l'année prochaine était prévu à 400 000 euros. Il faut savoir que le prix de l'électricité, a priori, devrait doubler en 2023.
Donc c'est une bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Brieuc. Autre histoire.
Et oui, et là je suis très content parce qu'on va enfin mettre fin à un débat qui passionne et déchire les Français depuis des années et des années.
Chocolatine. Tous les matins, il achetait.
Ah, chocolatine
est en chocolat. Et oui, bravo Thierry, on peut même cacher.
Chocolatine.
Oh là là, eh bien, on va trancher aujourd'hui. Ah. En ce vendredi 4 novembre, je vous annonce qu'on dit bel et bien. Pain au chocolat. Et oui, yes, tout simplement.
Bravo.
Parce que cette
grande
semaine,
victoire.
On a appris que le meilleur pain au chocolat de France était francilien à la boulangerie pâtisserie Au Soleil à Poissy. Alors ça s'est passé samedi dernier sur la scène du Salon du Chocolat au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et c'est le chef Didier Ledemay qui a été consacré. Alors s'il a gagné ce titre de meilleur pain au chocolat de France, c'est notamment grâce à son fabuleux feuilletage. Alors, on prend quand même en compte la cuisson, le goût, l'aspect visuel, le fondant du chocolat. Mais là, c'est vraiment le feuilletage. Il a aussi insisté sur les produits. Il prend des produits qui ne sont fabriqués et produits qu'autour de Poissy.
D'accord.
Il ne va pas chercher du chocolat à l'autre. Enfin, il va chercher du chocolat à l'autre bout du monde, bien sûr, mais ses produits.
Les cacaoyers de Poissy.
J'ai habité à côté de Poissy et j'ai jamais vu de champ de chocolat.
Oui, c'est la meilleure chocolatine de France, donc c'est ça. Donc.
Non, c'est le meilleur pain au chocolat.
C'est de la baguette avec un morceau de chocolat.
En tout cas,
silence.
Je suis d'accord avec nous, avec moi.
Tu pourras continuer à dire
toute l'équipe qui est en région, on en a discuté. S'il veut nous rendre visite et nous ramener 2-3 petits pains au chocolat.
Mais qu'il n'hésite pas.
Il est.
Il sera le bienvenu.
Oh, voilà.
Exactement.
J'enchaîne avec vous.
Oui.
J'ai une question. Vous tirez ou vous pointez ?
Je fais les deux.
Ah.
Je pointe.
Alors, je vais vous parler du clap. Qu'est-ce que le clap ? C'est le club Le Pic à Bèze Pétanque, l'un des plus vieux clubs de pétanque de Paris. Et si la presse quotidienne en a parlé cette semaine, c'est parce que cette institution mythique de Montmartre va peut-être disparaître. Oh, oui. Alors, elle existe depuis 1971. Des centaines de riverains profitent de ce club. 8 terrains, une surface de 750 mètres carrés. Mais actuellement, il est au cœur d'un combat entre donc le club lui-même et la maire de Paris, Anne Hidalgo, puisque à la mairie, on veut remettre le bail de cet endroit en jeu, en vue, je cite, de l'octroi d'un titre d'occupation du domaine public, donc c'est un peu pompeux comme expression, mais plus qu'un club de pétanque, c'est une institution et un symbole du quartier, hein, c'est un vrai petit village Montmartre à Paris. Une pétition en ligne a été lancée pour soutenir le club. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 signatures. L'appel à candidature pour ce projet est lui prévu le 28 novembre.
donc se voilà. battra pour ce terrain de pétanque.
J'ai signé la pétition.
Ah,
il y a plein de journalistes qui ont relayé le truc et j'ai signé.
Donc vous tapez clap pétanque.
C'est marrant cette capacité à créer des emmerdements là où il ne devrait pas y en avoir.
Oui, mais ça, c'est la mairie de Paris, ça, vous savez.
Pour faire du pognon en revendant le.
Non, mais c'est fascinant quand même.
Fascinant, mais enfin, la mairie de Paris, on est habitué.
Si effectivement, ils ont un droit d'usage coutumier, il n'y a qu'à le transformer en droit d'occupation classique.
Mais je veux dire, franchement,
plus virer un truc, c'est de l'animation locale.
Bien sûr, je veux dire, voilà, continuez.
Est-ce que quelqu'un joue à l'Euromillion ce matin autour de la table?
Non,
parce qu'il y a 160 millions d'euros à gagner ce soir. Et vous allez peut-être rejoindre la famille des chanceux. En tout cas, d'un chanceux, un très chanceux. C'est le Dauphiné qui nous raconte l'histoire de ce père de famille. Puisque ce monsieur est devenu millionnaire, non pas une, mais deux fois.
Mais non.
Il a joué une première fois en 2020, une grille d'Euromillions. Comme toutes les semaines, hein, c'est un joueur récurrent. Mais grâce à l'option My Million, il y a deux ans donc, il remporte 1 million d'euros. Heureux mais pas rassasié, il a continué à jouer. Et ben, il a bien fait, puisqu'il y a quelques semaines, il a de nouveau gagné 1 million d'euros. Alors évidemment, du côté de sa famille, on l'a pas cru tout de suite. Mais la vraie belle histoire de tout ça, gagner 2 millions d'euros,
il me l'a donné.
C'est non. Très bien. Non, le second gain, il l'apprend le jour de son remariage avec sa femme. Il a décidé de se remarier pour célébrer son amour.
Le bon parti tout à coup.
Et oui.
Elle était contente.
Et à la veille de son départ en voyage de noces. C'est un cadeau de fiançailles.
Ils ont gradé l'hôtel, non ?
Faudra surtout vérifier c'est qu'ils reviennent du voyage de noces.
Oui.
On termine avec ça ?
Bon, vu qu'il reste que 10 secondes, oui, on va s'arrêter là.
Et puis c'était une belle histoire.
Oui, hein, c'était une belle histoire.
Voilà, merci.
Et le reste ne l'était pas forcément.
Bah c'est bien parce que vous vendez bien votre chronique, Paul. Paul Lassen, tous les vendredis à 13h50 dans Estelle Midi, le journal décalé. Merci beaucoup.
Merci.
Paul, dans un instant, on parlera amour et argent. Trois quarts des Français en couple possèdent un compte joint. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On attend vos témoignages, mais ils sont déjà nombreux, je crois.
Oui, il y a déjà beaucoup de messages.
Au 32-16 et sur l'appli RMC, on vous
et ils sont pas mal, vous allez voir.
Ah, très bien, on vous dira tout ça dans un instant.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.